Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de Par les temps qui courent. Chaque soir, un entretien d'une heure avec les artistes qui font l'actualité culturelle. Ce soir, le photographe, photojournaliste, photoreporter. On verra tout à l'heure Samuel Bollendorf.
Un tango, une danse, un baiser.
Tu peux t'appeler, t'appeler.
Par les temps qui courent.
Ça y est, puis vas-tu bien.
Marie-Richard.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseur.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Un lac sans eau, un fleuve mort, un chien mort, des dizaines d'espèces animales décimées, une ville qui intoxique et tue ses habitants, une forêt primaire rasée, des enfants déformés, des salons radioactifs, des hommes et des femmes malades qui peinent à faire reconnaître les causes de leur mal, des cimetières dans la neige, des destructions invisibles, puis sautant aux yeux, soudainement incarnées dans le corps d'une enfant. Votre série de photographies et de textes rassemblés sous le titre « Contamination » oscille entre le visible et l'invisible. Ce projet questionne tout autant notre responsabilité de citoyens face aux massives pollutions industrielles irréversibles que notre responsabilité de regardeur devant vos images qui interrogent la pratique de photographie de paysages et de portraits. Samuel Bollendorf, voilà plusieurs décennies que vous travaillez sur des parcours d'humains fragilisés, précarisés, violentés. Gageons qu'avec ce projet, vous parveniez à convaincre que fragiliser et violenter, nous le sommes toutes et tous en violentant le vivant. Bonsoir et merci d'être avec nous.
Bonsoir, merci de m'inviter.
Avec Contamination, c'est donc sous-titré « Ou après moi le déluge », vous exposez des photos et des textes à l'occasion du festival Visa pour l'image à Perpignan du 1er au 16 septembre prochain. C'est un festival qui fête 30 ans de célébration du photojournalisme. Alors tout à l'heure je disais photographe, photoreporter, photojournaliste. Généralement moi les dénominations m'intéressent peu, sauf qu'en fait elles soulèvent des questions qui peuvent nous intéresser. Est-ce que vous utilisez un mot en particulier, Samuel Bollendorf?
Moi j'utilise photographe ou réalisateur, ça dépend de mes projets, mais en ce qui concerne le photojournalisme, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand j'ai commencé à travailler, à la fin du XXe siècle, le métier que je rêvais de faire, ça s'appelait photoreporter. Et puis aujourd'hui, ou après, on a parlé de photojournalisme, on parle aussi de photographe documentaire. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, ce glissement sémantique, il pointe du doigt la nécessité pour le photographe de toujours plus revendiquer son statut d'auteur, son point de vue, sa subjectivité. Et finalement, il reflète un mouvement qu'on a été obligé de prendre aussi pour pouvoir continuer à raconter des histoires face à une presse qui a connu ce qu'on sait depuis 15-20 ans, à savoir être de plus en plus rentable, racheté par des grands groupes, qui a vécu le tournant numérique avec fracas.
Donc une autre utilisation des images.
Une autre utilisation et surtout des économies qui ont poussé les titres à ne plus produire de photographies, mais à la consommer. Et donc, pour pouvoir continuer à produire des photographies, il a fallu se tourner vers d'autres interlocuteurs, parfois des galeries, parfois le web, parfois des espaces complètement à défricher, dans lesquels il y avait énormément de liberté aussi. Et ce qui nous a du coup conduit à parfois devenir des réalisateurs, parfois se tourner vers le monde de l'art, et finalement changer de dénomination.
Parce qu'on y viendra, non seulement vous adjoignez des textes à vos images, mais vous travaillez aussi des formes qui sont ou bien tout simplement des formes de films, ou bien des formes webdoc, ou bien des formes où le son vient agrémenter, ou en tout cas dialoguer avec l'image. Mais revenons à ce que vous signaliez, Samuel Bollendorf, vous dites à l'époque, fin du 20e, moi ce que je voulais faire c'était photoreporter. Ça recouvrait quoi comme réalité, ce rêve-là?
Je crois que il y avait l'idée de témoigner. C'était vraiment un terme qu'on employait beaucoup à ce moment-là. C'est marrant parce que c'est un terme que j'utilise pas forcément aujourd'hui. Ce qui m'empêche pas de continuer à finalement faire le même métier. Hein. C'est d'essayer de raconter des histoires, d'alerter parfois, d'avoir le sentiment qu'on fait quelque chose, qu'on n'est pas uniquement passif. Chacun fait comme il peut avec avec le monde dans lequel on doit s'inscrire. Et je pense que à l'époque il y avait quelque chose de très simple, c'est-à-dire que partir sur le terrain, avoir une commande d'un journal, publier de façon quasi instantané, même si à ce moment-là ça pouvait prendre une semaine ou deux, mais il y avait là presque une routine possible. Je n'imaginais pas que mon métier changerait en 10 ans, en 20 ans. Cette question-là n'était pas posée. Et puis avec le tournant des années 2000, évidemment, le numérique et cette évolution de la presse nous a contraints à trouver d'autres formes d'indépendance, finalement, pour pouvoir continuer à écrire ces histoires, à les raconter.
Notamment à travers des collectifs, des regroupements de photographes qui ont été au cœur de vos pratiques et de pratiques d'autres photographes, qui se sont réunis en plateforme. Mais est-ce que l'image préexistait au désir du terrain ou du départ que vous décrivez, Samuel Bollendorf? Est-ce que tout simplement la photographie préexistait au désir du photoreporter?
Je pense, puisque j'ai toujours fait des photographies dès 8-9 ans, j'avais un espèce d'appareil Kodak qui faisait clic ou clac, et donc vers 11 ans, mon père m'a emmené acheter un agrandisseur à la Fnac et on a développé des photos dans la salle de bain, et ça a toujours été ce que je voulais faire. Donc ce besoin de photographie, il a toujours préexisté, tout en sachant que pour moi ça n'est qu'un outil, et c'est pour ça que je me suis senti assez libre parfois d'utiliser le film, parce que j'avais le sentiment que c'était un outil qui était plus adapté au discours que je voulais porter à ce moment-là, et c'est vraiment un outil de prise de parole, quoi.
Oui, c'est peut-être que le discours progressivement a pris plus de place que le désir d'image.
En tout cas, s'autoriser à faire exister la parole, oui. Mon premier gros projet s'appelait Silence.
Et en fait, le silence, il est là tout le temps, hein. On y reviendra, mais la question de qu'est-ce qui est silencieux, même silencieux d'un point de vue visible, est vraiment un des fils rouges. Alors, pour revenir à ce projet qui est exposé à Perpignan, qui s'appelle donc Contamination, et qui est sous-titré « Ou après moi le déluge », c'est le fruit d'un tour du monde au cours duquel vous écrivez que, quel que soit l'endroit où vous avez posé votre regard, il s'est perdu dans l'obscurité, dans quelque chose qui était abîmé. Alors il se trouve que le hasard veut qu'on vous reçoive un jour de démission du ministre de la Transition écologique Nicolas Hulot ce matin. Est-ce que c'est un tour du monde que vous engagez par conscience écologique ou quelque chose de cet ordre-là?
Ma conscience écologique, elle n'a pas préexisté à ce projet. Évidemment, on ne ressort pas indemne d'un tel tour du monde, où j'ai vraiment eu le sentiment, en le parcourant si vite, que cette planète, elle est tellement petite. On en fait tellement facilement le tour, ou on va tellement facilement à l'autre bout, que il y avait quelque chose de là de très fragile, quoi. Mais c'est vrai que j'ai travaillé depuis toujours sur des sujets sociaux, des sujets parfois lourds, mais c'était pas des sujets environnementaux. Je me suis en plus toujours dit que c'était un peu tarte à la crème pour un photographe de travailler sur l'environnement, qui en avait déjà beaucoup, qui avait travaillé sur ces problématiques. Et puis, peut-être que j'avais pas forcément ce rapport à la nature là.
Il ressemblait à quoi votre rapport à la nature?
Ah bah, je suis très très citadin, moi, très urbain, j'ai jamais eu des soifs de grands espaces ou de Caraïbes pour me ressourcer, mais les Cévennes peuvent suffire, ce qui est quand même la nature.
C'est quand même la nature.
J'ai pas besoin d'aller au bout du monde pour ça. J'ai abordé ce projet d'abord avec une conscience politique qui touchait plus à un système économique, financier, politique qui tend à détruire
industriel
évidemment qui n'a que faire de cette problématique écologique et je me suis engagé là-dedans de cette façon-là, mais j'en suis revenu avec l'idée qu'on ne peut pas continuer comme ça, ça c'est sûr. C'est désarmant. Et c'est surtout ce qui était désarmant pour moi, c'est que finalement, en ayant travaillé sur ces sujets sociaux jusque-là, j'avais toujours la possibilité de me dire, En fait, j'ai la chance que ce soit pas mon histoire, celle que je suis en train de raconter. Et je pense que c'était une façon aussi de se protéger, mais aussi de remettre le curseur à sa place. Et que, effectivement, moi, quand il m'arrivait quelque chose, je pouvais assez facilement relativiser. Et puis, ça me permettait même de rester peut-être optimiste ou enthousiaste dans la vie.
Alors là, qu'on aurait pu considérer que c'était votre histoire, hein. Vous avez travaillé sur des immolations pour cause de désespoir économique, ou vous avez travaillé sur des vagues de suicides dans des grandes entreprises, vous avez travaillé sur des grandes difficultés de mal logement, vous avez travaillé sur de multiples sujets qui finalement sont notre histoire, tout autant que les catastrophes écologiques, puisque ce sont les sociétés que nous produisons.
Bien sûr, mais j'avais, et c'est évidemment ce que je voulais montrer, mais j'avais la chance que ce soit pas mon histoire personnelle. Or là, face à cette ampleur, et cette planète, il n'y avait pas moyen de se dire que c'était pas mon histoire, et que finalement, ces histoires, c'est notre histoire. Et peut-être, évidemment, du coup, on va aller encore plus profond dans la prise de conscience que finalement toutes les histoires que j'ai racontées jusque-là, c'est aussi notre histoire, oui. Mais je n'ai plus ma barrière de protection que j'avais pu installer jusque-là.
Vous dites le tour du monde se fait rapidement. Alors évidemment, ça dépend de qui on est et comment on le fait. Mais en tout cas, vous l'avez fait rapidement, c'est-à-dire en combien de temps et comment vous avez élu ces sites que vous avez fréquentés, combien de temps à chaque fois, dans quelles conditions et peut-être avec aussi quelle liberté pour faire vos images.
Alors c'est un tour du monde que j'ai réalisé les 6 derniers mois, c'est-à-dire entre fin janvier et mi-juillet. Et on a choisi. J'avais écrit ce projet depuis un moment et je l'ai proposé au journal Le Monde, avec lequel on a discuté des sujets, mais qu'on n'a pas changé finalement. Et donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur des sites qui sont laissés impropres au développement humain et de la vie pour des siècles par des entreprises d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je voulais pas qu'on puisse se dire ah non mais ça va c'est au fond de l'Afrique c'est parce qu'il y a un problème de développement. Non, c'est aux États-Unis, c'est au Canada, c'est en Italie, c'est au Japon et ce sont des pays qui sont des pays partenaires, c'est des pays qui ont des niveaux de développement qui sont tout à fait comparables aux nôtres,
avec qui nous discutons politiquement,
avec lesquels nous nous accommodons des pratiques donc finalement nous partageons ce mode de vie, de destruction, nous acceptons tout ça. Et donc, il fallait absolument que ce soit des problématiques contemporaines et de pays dits développés, suffisamment riches pour que on ne puisse pas se réfugier derrière un argument du lointain, quoi.
J'imagine qu'il a fallu faire des choix pour se décider, parce que ce sont des sites qui sont très particuliers. Vous les avez effectués comment? Est-ce que ça a été le fruit de recherches? Est-ce que vous vous êtes basé sur des grands scandales industriels, hein, parce qu'on retrouve par exemple un grand nom comme Monsanto. Comment est-ce que vous avez procédé?
Mon idée, c'était de toujours essayer d'avoir effectivement une entreprise ou une organisation, un site et une molécule ou un élément polluant. Et je voulais qu'on ait une approche assez scientifique dans la façon dont on allait traiter ces sujets pour que on puisse remettre en cause aussi les arguments de communication des pollueurs. C'était important évidemment d'avoir des problématiques qui étaient complémentaires, c'est-à-dire que sur le nucléaire, on s'est posé la question de savoir si on allait à Tchernobyl ou à Fukushima, et je trouvais que Fukushima c'était un sujet qui parle beaucoup plus, encore une fois, à notre prise de conscience que le nucléaire, même dans un pays riche, même dans un pays dont on admire la technologie, ça n'est pas sûr. Et donc, il y avait le nucléaire, mais il fallait aussi qu'on ait c'est tragique, hein, c'est comme si on faisait son marché, mais des rivières polluées.
Comme un inventaire.
Oui, voilà, la problématique des PCB. C'est tout ça qu'on a essayé de mener comme regroupement de sujets pour essayer de dresser ce tableau de contamination industrielle.
On écoute Michael Ferrier qui évoque justement Fukushima.
Parce qu'il y a une difficulté propre à parler de Fukushima. Fukushima, c'est une triple catastrophe, vous l'avez dit, qui combine des aspects très classiques, le séisme, le tsunami, ce sont des catastrophes, je dirais, classiques, avec tremblement de terre, très spectaculaire, avec exode de population, le plus grand exode de population quand même au Japon depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc des aspects classiques et en même temps des aspects sinon inouïs, du moins très rarissimes, pour l'instant en tout cas. Seul Tchernobyl finalement avait donné un exemple de cette contamination nucléaire avant Fukushima, à ce niveau-là en tout cas. Et ce dernier volet fait qu'on est face à un nouveau type de catastrophe, j'appelle ça les catastrophes furtives ou les catastrophes discrètes, qui sont banales finalement et qui sont terribles dans leur banalité même, qu'on a du mal à appréhender par les sens, sentir la radioactivité, la goûter, l'entendre, c'est pas évident sans être appareillé de diverses manières. Donc on a du mal à l'appréhender par les sens et aussi, et donc je dirais, par la perception autant que par l'intellection. On a du mal à comprendre ce qui se passe et comment l'appréhender. Ça, c'est un véritable problème. Nos cadres épistémologiques, c'est-à-dire la manière dont nous organisons nos connaissances sur un événement pour à la fois le sentir et l'analyser, nos cadres épistémologiques ne sont pas configurés pour ce genre d'événement. Donc là, il y a tout un travail, et vous voyez que c'est un travail de visibilité, comment rendre visible cette catastrophe. Et ce travail-là est autant poétique au sens large, c'est-à-dire esthétique d'une certaine manière, c'est autant une tâche d'artiste, d'écrivain, d'artiste visuel, de designer éventuellement, que une tâche scientifique. Comment des médecins, par exemple, peuvent visualiser le processus des petites doses de radioactivité qui vous entrent dans le corps régulièrement et qui vont finir par provoquer un cancer.
C'est la voix du romancier Michael Ferrier. Il est au micro de Caroline Brouet en 2015 sur France Culture. Il parle de la difficulté d'appréhender cette catastrophe de Fukushima et ensuite, alors qu'il est romancier, de la difficulté de la rendre visible. Et Samuel Bolender, c'est un des endroits où vous vous êtes rendu pour produire des images, pour pouvoir compléter ce tour du monde pour contamination. Quelles images vous avez produites et comment vous avez résolu cette question-là? C'est-à-dire, c'est difficile à appréhender, c'est difficile de voir quelque chose. Qu'est-ce que je donne à voir?
C'est une question qui m'anime depuis maintenant quelques années. Comment faire des images de quelque chose qui est invisible? Ce qui quand même, revenons au photoreporter, est vraiment problématique. Quand on parlait de l'instant décisif de Cartier-Bresson, on en est loin. Et donc, il a fallu effectivement d'abord que notre métier nous éloigne de l'événement. C'est-à-dire que la presse aujourd'hui fonctionne tellement, la presse et les réseaux, etc. Il y a une telle immédiateté de l'information et de l'information visuelle que, en tant que photographe indépendant, qui ne travaille pas pour une agence filaire, donc qui n'est pas sur des sujets d'actualité, traiter ces sujets dans l'immédiateté, c'est impossible. Je ne suis pas concurrentiel. Donc il a fallu que je me pose la question, d'abord que je m'éloigne de ces sujets et que je me pose la question de comment les traiter avec du recul. Et finalement, quand on revient sur un sujet qui a été déjà médiatiquement exposé, parce que finalement c'est sur des sujets comme ça que je travaille, moi je fais pas de scoop, je travaille sur des sujets dont on a déjà parlé, mais qu'on a oublié ou qu'on n'a pas voulu voir. Mais finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça me permet de ne pas montrer, mais dans le texte, de convoquer les images que nous avons déjà chacun de ce sujet. Et c'est justement cet espace-là que j'essaye de préserver, c'est-à-dire à partir du moment où on connaît un événement, il suffit juste de le relater pour pouvoir réanimer, si je puis dire, hors champ, ce qui se passe dans les images que je réalise.
Et éventuellement notre mémoire visuelle.
Absolument. Et donc, c'est pour ça que j'ai réalisé des paysages vides. J'ai souvent fait des images très vides. J'ai fait des images de moins en moins bavardes, finalement. Ce ne sont plus les images qui racontent. Les images, elles posent un décor, elles posent peut-être effectivement une ambiance esthétique, une formule dont j'espère que le spectateur va adhérer à cette image. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'arrive à l'emporter dans cette image, une fois que je lui raconte un récit, il va se servir de cet espace visuel pour alimenter son imaginaire. Et on le sait très bien avec la radio, quand il n'y a pas d'image, on fabrique nous-mêmes des images à l'écoute. Et que ce soit avec le son ou avec le texte, c'est ce dialogue-là que j'essaye de mettre en place, c'est-à-dire de proposer une image de départ pour pouvoir après laisser chacun convoquer ses propres images, ses propres connaissances, ses propres expériences d'un sujet, pour que finalement il ait une relation affectée. Parce que par définition, puisqu'il utilise son propre registre imaginaire, il ne peut qu'être affecté. Et donc, c'est là-dessus que j'essaye de travailler depuis des années, sur cette question de qu'est-ce qu'on montre et qu'est-ce qu'on ne montre pas, mais qu'on évoque, pour essayer de réengager le public.
Dans le cas de Fukushima, vous produisez quelles images, si on parle concrètement, Samuel Bollendorf, on va à Perpignan du 1er au 16 septembre, et de cet invisible, on voit quoi ?
De cet invisible, on voit évidemment on voit la centrale qui est toujours là. On voit des présences en fait de sites. On voit des forêts. On voit quand même des témoins. Parfois d'ailleurs, on ne les voit pas parce qu'ils préfèrent rester anonymes, parce qu'il y a une honte aussi d'avoir été irradié au Japon. Et c'est un désastre aussi pour ceux qui aujourd'hui chercheraient à continuer à vivre ou à refaire leur vie. Et puis, il y a quand même des vestiges de ce chaos, du tsunami et du séisme qui ont été figés par la radioactivité, avec une nature luxuriante qui reprend ses droits sur la ville, sur l'urbain. Et parfois, c'est très beau.
C'est ce que j'allais dire. Ça donne de manière très paradoxale des images qui frôlent le bucolique. Michel Farrier parlait d'un travail poétique, esthétique, auquel il faut s'attacher pour rendre visible ce qui ne l'est pas. C'est un travail que vous vous employez à faire vous aussi. Et d'un seul coup, nous sommes face à un travail de photographie, de paysage dans l'absolu, et que ce qui existe devant nous, ce sont des paysages avec la beauté que ça peut générer. Toxique, aussi toxique soit-elle.
Oui, mais si on veut pas voir un enfant cancéreux irradié, etc., ce qui est entendable, c'est affreux. Cette idée, pas l'enfant lui-même. Ne le montrons pas, montrons cette nature merveilleuse. Et là, les gens adhèrent, ils ont envie de regarder cette image. Et après, on peut leur dire, cette image de la même façon. Elle est malade, elle est contaminée et elle n'est plus viable. Et là, peut-être qu'on touche un autre public, qui est le public qui n'avait pas envie de regarder les images les plus dures. Donc voilà, c'est cette espèce de mécanique où j'essaye en permanence de me poser la question de comment on fonctionne, comment moi aussi, je suis un quelqu'un moyen qui regarde, qui zappe, qui n'a pas envie de lire un sujet parce que on me l'a déjà trop raconté, qui n'a pas envie de voir certaines images, qui m'arrête sur d'autres, et j'essaye en permanence de me nourrir de ça, de pas culpabiliser à l'idée de me dire cette image-là, j'ai pas ce sujet, je m'en fous. Et après, éventuellement, si je décide de travailler dessus, de me dire comment faire pour essayer de faire en sorte qu'on soit pas dans, qu'on dépasse cette étape-là.
Donc c'est à l'inverse du choc.
Le choc, on l'a eu. Ça sert à rien d'essayer de le... D'abord, en plus, quand on arrive un an après, les images du choc, elles ne pourront être que plus fortes, celles qui ont été faites au moment de l'événement. Donc, encore une fois, ça n'est pas la peine d'essayer d'aller singer l'actualité. Il faut au contraire s'en affranchir. Et c'est cette chance-là, celle à laquelle on est confronté dans toute cette mutation de la presse, c'est de pouvoir revendiquer notre subjectivité. Cette espèce de mythe du journaliste objectif, c'est le XXe siècle.
D'autant que vous allez très très proche de vos sujets. On l'entendait donc dans la voix du romancier Michel Farrier. C'est un travail donc esthétique, poétique, mais aussi peut-être à faire main dans la main avec des scientifiques, dans le cas de la nécessité de rendre visible des catastrophes comme celle de Fukushima, des paroles de scientifiques, des paroles d'experts. Vous en produisez parce que quoi? Vous allez les interviewer, Samuel Bollendorf?
Parce que certains, évidemment, on en a interviewé, sur tous les sujets, on a rencontré des scientifiques, on a rencontré des victimes, on a rencontré aussi des pollueurs quand ils acceptaient de nous rencontrer pour leur donner la parole. Et là, c'était formidable de travailler avec le journal Le Monde parce que ça, quand même, ça ouvre certaines portes. Et c'est aussi, c'est un gage de crédit. De travailler avec des scientifiques. Quand on, si on parle de ce qu'on appelle le continent de plastique,
donc il n'existe pas comme tel. Hein. Il n'y a pas un bon continent en plastique qui se promène.
Il y a des aberrations d'images qui sont diffusées sur les réseaux où on voit des tombereaux de déchets qui doivent être photographiés sûrement à la sortie des égouts de je ne sais quelle de Manille ou de je ne sais quelle ville d'Asie du Sud-Est, alors que le continent de plastique, c'est un territoire gigantesque. C'est 6 fois comme la France, mais c'est merveilleux, c'est l'océan Pacifique. Sauf que malheureusement, là-dedans, il y a des milliards de milliards de petits fragments de plastique qui sont grands comme la taille d'un grain de riz, ou de 20 microns, c'est-à-dire de la taille du phytoplancton, qui sont ingérés par les poissons, qui rentrent dans la chaîne alimentaire, qu'on ne pourra jamais nettoyer. Ces utopies-là sont aberrantes, on ne peut pas draguer ces microparticules. Et donc c'est une catastrophe, mais pour ça il a fallu que j'aie la chance de pouvoir embarquer à bord de Tara et de son expédition scientifique avec des chercheurs de différents laboratoires français et étrangers et de moi-même devenir intelligent sur le sujet. C'est-à-dire que évidemment que tout ça, ça demande énormément d'enquête et qu'il ne s'agit pas juste d'aller photographier un paysage vide. On ne le photographie que aussi au regard et chargé de ces histoires, de ces témoignages, de cette réalité objective, etc.
Parfois de cette connaissance aussi. Et là, c'est marrant parce que c'est... Alors en tout cas, moi, dans l'ordre dans lequel je les ai vues, ce sont les dernières images que j'ai vues. Votre voyage, enfin en tout cas votre participation à cette exposition Tara, et vous ramenez des gros plans de filtres sur lesquels on voit incruster ces petits bouts de plastique, et probablement on ne voit pas tous les autres qui sont beaucoup plus petits, ou bien qui n'ont pas été captés par les filtres, ou bien que je ne peux pas voir à l'œil nu. Et ça donne des choses extrêmement plastiques, mais qui sont fort différentes des paysages qu'on a pu voir dans les autres séries de photographies des autres lieux. Est-ce que c'est parce que cette expédition-là, vous l'avez vécue autrement ?
Non, il y avait un contexte qui était différent, c'est-à-dire que sur les 6 premiers volets, je me suis retrouvé sur des territoires dans lesquels je pouvais voyager, aller à la rencontre des victimes.
Et là, vous étiez sur un bateau.
J'étais sur un bateau pour traverser le Pacifique. Et puis, le pollueur principal n'est pas pointable du doigt comme un exploitant de sable bitumineux ou Monsanto pour les PCB. C'est nous. C'est nos comportements avec le plastique, c'est le fait qu'on ait des gobelets en plastique, des bouteilles, des pailles, tous ces plastiques à usage unique qui finissent dans la mer, c'est tout ça. Et donc, je pense qu'il y avait quelque chose d'une prise de conscience là qui était peut-être à tenter d'opérer autrement. Mais par ailleurs, moi-même, je savais juste que j'allais photographier l'océan tous les jours pour essayer de faire une image qui raconte cette espèce de paisible...
Malade lui aussi.
Oui, dans lequel qu'on ne peut plus regarder de la même façon. Et je me suis retrouvé face à ces filtres plastiques, enfin à ces filtres pardon qui étaient dragués à la surface de l'eau pendant une demi-heure tous les jours, plusieurs fois par jour, et où à 2500 km des côtes, on se retrouvait avec des tombereaux de plastique, avec plus de plastique que de plancton, et ces intérieurs de filtres là. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut photographier. Mais ça, c'est parce que c'est ce sujet-là et que on part pas toujours en sachant exactement ce qu'on va trouver. Et il se trouve que j'avais un accès à cet élément polluant. Les PCB de Monsanto, ils sont infotographiables. Ils sont partout. Ils sont dans nos corps. Ils sont jusqu'en Arctique. Il y a plus un mammifère qui n'en a pas. Mais c'est absolument immontrable.
De même, c'est pas facile d'interviewer une baleine ou d'autres espèces aquatiques qui sont rendues malades quand elles ne sont pas tuées par l'absorption de ces microplastiques, alors que vous interviewez des pêcheurs qui sont face à des fleuves où ils ne peuvent plus pêcher et où tout simplement ils réparent des filets toute la journée dans un abrutissement parce qu'ils sont rendus fous de quitter ou d'être forcé à quitter un mode de vie ancestral et de ne plus pouvoir retirer un poisson qui ne soit pas malade d'un fleuve qui les a fait vivre jusqu'à là.
Oui, ils sont hagards ou... Enfin, moi j'avais l'idée de la sidération.
Qui est rendue par une image très très forte d'ailleurs. Vraiment un homme qui est sidéré.
C'est quelque chose de cet ordre-là. Je pense que plonger dans ces univers, c'est trop immense. Ça nous dépasse. C'est des pans de planète qu'on contamine. On peut plus agir. On ne peut rien faire pour des siècles. Donc il y a quelque chose là qui nous laisse glacés, sidérés, et c'est de cette façon-là que j'ai tenté de photographier les personnages de ces enquêtes qu'on a pu rencontrer.
Donc c'est-à-dire que vous adjoignez à cette pratique de paysage dont on a parlé, Samuel Bollendorf, une pratique d'entretien, mais aussi une pratique de portrait. Je pense à un homme aussi que vous photographiez dans son salon, sur un canapé de velours, qui vous regarde, je crois, et dont vous reportez les paroles, qui dit que malgré la contamination de cet endroit, il ne bougera pas, qu'il n'a plus de voisins. Et c'est une image qui est presque douce et qui travaille à l'empathie dont vous parliez tout à l'heure. C'est-à-dire nous nous sentons si proches de cet homme que lisant le texte à côté, on ne peut pas être absolument effaré de ce qu'il traverse. Vous vous concentrez très souvent à noter les dates, les lieux, parfois le nom des personnes, quand j'imagine ils vous le permettent. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ?
Ça, c'est... En fait, j'essaye d'écrire de façon très factuelle, même si il peut parfois y avoir un peu de poésie dans les formulations. C'est pas un exercice littéraire. J'essaye de faire en sorte que le texte soit accessible à quiconque qui voudrait bien s'intéresser à ce sujet. Et donc, il s'agit pas d'aller juger ma plume. Et donc, j'essaye de faire des textes qui sont vraiment très factuels et de les incarner. Et de dire ça existe, c'est là, c'est à tel endroit, c'est à telle date, c'est telle personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est venu aussi au moment du travail que j'ai fait sur les violences faites aux réfugiés tout au long de leur route d'exil, où on était submergé de ces, et encore aujourd'hui, mais quoi qu'un peu moins avec toutes les espèces de circonvolutions autour de savoir qui va accueillir 150 personnes prises sur un bateau, mais jusqu'à l'année dernière, on était submergé de ces images de radeaux avec 200, 500 personnes dessus, de ces enfants morts sur les plages de Grèce avec Aylan qui a ému le monde entier pendant 15 jours. Et puis c'est balayé. Et en fait, Aylan, il était incarné. Mais les autres, c'est des foules désincarnées, anonymes. En plus, ils ont pas des têtes. Les gens ne s'identifient pas parce que ils voient un Syrien. Et donc, ça n'opérait plus. Ces images, on avait beau les voir, on les balayait, on détournait le regard. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut mettre des noms.
Dire
le
nom des
lieux. Il faut aller raconter des histoires individuelles. Et c'est pour ça que je suis retourné sur des lieux. J'ai compilé tous les rapports d'Amnesty, de Human Rights Watch, d'MDM, etc. Et j'ai refait tout ce parcours de la frontière turque jusqu'à Calais et jusqu'au nord de l'Europe, en essayant de pointer, enfin, de n'aller que sur des lieux où tous ces candidats à l'exil avaient rencontré des violences. Ça peut être celle des patients, mais ça peut être aussi celle de nos polices, etc. Et d'aller raconter l'histoire de chacune de ces violences, de tel viol, de cette femme, de ce qu'elle a vécu, et d'aller photographier le lieu vide, parce que j'allais évidemment pas aller faire un portrait d'une femme qui a déjà eu le courage de témoigner et qui a pas envie d'être photographiée. Et donc... C'était des histoires individuelles. Et après, on peut commencer à se dire, des histoires comme ça, il y en a des centaines de milliers. Mais c'est des gens qui ont tout vendu. C'est des gens qui ont tout perdu. C'est des gens qui, y compris sur leur route d'exil, se sont fait violer, ont encore perdu des proches, parce qu'on a fermé nos frontières et qu'on joue à la loterie avec des milliers de morts qui tentent de traverser, alors que si on les faisait traverser sur un ferry et qu'après on étudiait leur dossier, au moins, ce serait pas le bon taux pour savoir si on va survivre. Enfin, c'est des choses comme ça, mais c'est la politique de l'Europe, c'est un déshonneur en la matière. Mais ça ne pouvait être, on ne pouvait le rendre visible que avec une image qui ne montre rien. Et quand on voit juste une belle plage avec le l'aube, qui est la plage où on a retrouvé Aylan, mais où évidemment il n'y a pas de trace, mais qu'en face de cette image, on a juste la parole du père qui raconte comment son enfant lui a glissé des mains, mais c'est effroyable. Et on ne peut pas ne pas se projeter si on a un enfant.
Parce que vous créez de l'espace Samuel Bollendorff, qui fait évidemment par exemple référence à une autre série qui s'appelle Le Grand Incendie, où photographier des espaces, là aussi, dénués de toute présence humaine, mais pas de toute présence, puisqu'il y a là souvent des bâtiments, des places publiques devant lesquelles des personnes se sont immolées par le feu. Et ces décors-là sont des décors qui appellent le récit d'une violence sociale que vous faites exister par des textes.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux.
Rémi Louvradou, 26 avril 2011, France Télécom Orange, Mérignac, France. Rémi Louvradou a intégré France Télécom à 20 ans, en tant que technicien. Tout au long de sa mission de service public, il a gravi les échelons jusqu'à devenir cadre, pour finalement être placardisé dans une agence près de Bordeaux. Suite à la privatisation du groupe, il est victime des nouvelles techniques managériales alors mises en œuvre. Le plan Next, conçu par Didier Lombard, PDG du groupe France Télécom Orange de 2005 à 2010, a pour but de diminuer la masse salariale de 10%. « Je ferai partir 22 000 salariés par la porte ou par la fenêtre », dit-il, sans complexe, lors d'une réunion interne. Environ 4 000 employés ont été formés afin d'accomplir sur le terrain la réduction des effectifs. Mobilité forcée, placardisation, les nouvelles stratégies de management sont violemment appliquées. Les directives déshumanisées de l'encadrement consistent à dégrader les conditions de travail afin de pousser psychologiquement au départ volontaire une partie des employés au statut de fonctionnaire. Ce plan provoque une vague de suicides sans précédent dans l'entreprise, une mode selon son PDG. Rémi Louvradou était préventeur chez France Télécom Orange. Il avait pour mission d'apporter un éclairage sur les dysfonctionnements au sein de l'entreprise et les raisons des suicides, afin d'en améliorer la prévention. On ne lui a attribué pour cela qu'un bureau sans fenêtre, sans ordinateur ni téléphone. Ses courriers d'alerte envoyés à la direction nationale du groupe sont restés sans réponse. Son manager N+1 a reçu l'ordre de ne pas lui répondre non plus. Il dira par la suite avoir obéi aux ordres. Rémi Louvradou s'est immolé par le feu le 26 avril 2011 sur le parking de son entreprise.
On parlait des noms, des dates et des lieux avec vous, Samuel Bollendorff. Ici, Jeanne Aléos lit l'un des textes qui est... fait partie de ce projet à part entière, Le Grand Incendie, où je le disais tout à l'heure, vous photographiez des espaces dénués de toute présence humaine, mais les textes réinjectent absolument toute la présence humaine qui nous manque éventuellement à l'image. Peut-être un mot sur ce projet-là, qu'il me semble d'une certaine manière faire écho, bien que très différent, à Contamination, qui est votre dernier projet photographique.
Oui, en fait, c'est la première fois que j'ai commencé à ne plus photographier les gens. Depuis toujours, je réalisais des images où l'humain était au cœur des images, au centre même, parfois. Et sur cette série sur les immolations en France, parce qu'il faut quand même savoir qu'entre 2011 et 2013, il y a eu une immolation tous les 15 jours sur la place publique en France, je me disais, mais en fait, bon, on va pas essayer d'aller chercher une photo d'archive d'un portrait de ces protagonistes, ça n'aurait pas de sens. Et puis en plus, j'ai travaillé avec Olivia Colo sur ce projet et on voulait absolument que ne s'intéresser qu'à la dimension immolation, c'est-à-dire un acte de contestation porté dans l'espace public. adressé au collectif, c'est-à-dire à nous. C'était pas des suicides, ce qu'on voulait appréhender. Il y a évidemment une partie suicide, d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas mourir et qui ne voulaient pas mourir quand ils ont commis ces actes, mais c'était rentré dans des histoires familiales et on voulait pas de ça, on voulait rester sur qu'est-ce qui nous est adressé à nous, collectif. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, une image d'immolation, on en a tous vu une dans notre vie, même si c'est l'image de Yann Palak ou de ce bonze birman, c'est ça marque à jamais. Et donc, on n'a pas besoin de la montrer. Au contraire, en photographiant ces lieux vides dans lesquels ça s'était déroulé, il suffisait juste de laisser encore une fois cet espace entre le récit et le lieu. Et après, chacun va convoquer sa propre image d'immolation, sa propre expérience ou sa propre sensibilité finalement. Et chacun va pouvoir se figurer l'horreur avec ses propres mots imaginaires.
Et ce faisant, vous ne photographiez pas rien, c'est-à-dire que vous allez chercher l'image d'autre chose, l'image d'un système qui peut-être produit ces immolations, donc des images de bâtiments qui sont comme une sorte de métonymie, ou bien d'un système d'aide sociale, ou bien d'une entreprise qui petit à petit perd tout sens du service public, ou bien d'une administration qui perd tout sens de son relation avec les citoyens qu'elle est censée servir et représenter. C'est-à-dire que ces bâtiments-là, d'un seul coup, ils sont le symbole d'autre chose. Ils existent très très fortement dans vos images, Samuel. Vous ne photographiez pas du vide.
Ah non, absolument pas. Mais d'abord, ce qui nous avait marqué quand même, c'est que les deux tiers de ces immolations avaient eu lieu devant des lieux de service public. C'est-à-dire que elles étaient systématiquement traitées comme des faits divers et faisaient éventuellement une ligne ou deux sur un site de presse local. Mais quand on les réunissait, nous, on imaginait qu'elles pointaient du doigt quelque chose du délitement du système social français hérité d'après-guerre. C'est quand même autant d'immolations que les moines tibétains ont face à l'oppression chinoise. C'est quand même énorme. Mais on les a jamais considérés comme un tout. On s'est réfugié derrière le traitement du fait divers et tous ceux qui communiquaient dessus, c'est-à-dire les PDG, ministres et autres communicants, pointaient du doigt la fragilité psychique de celui qui était passé à l'acte et ne considéraient jamais la portée contestataire de l'acte. Donc en fait, les photos qu'on a réalisées, ce sont effectivement uniquement les lieux dans lesquels ça s'est produit. Et ce qui est terrible, c'est que c'est un bout de parking, c'est une zone périurbaine avec une agence Pôle Emploi voilà.
Mais c'est aussi la traduction physique de notre état.
Absolument. Mais c'est des lieux qu'on foule. Et si on ne sait pas ce qui s'y est passé, c'est des non-lieux. Mais une fois qu'on sait ce qui s'y est déroulé, on ne peut plus les regarder de la même façon. Et c'est vraiment tout ça l'enjeu de faire dialoguer ces textes et donc ces récits avec ces lieux vides photographiés de façon très cadastrale avec un objectif d'architecture, c'est-à-dire de façon très frontale. Il y a effectivement peu d'échappatoires généralement. Voilà, c'est les lieux de la dernière oppression aussi qu'ont pu peut-être vivre ceux qui sont passés à l'acte.
Je renvoie nos auditeurs et auditrices à une forme webdoc du Grand Incendie où on peut par exemple confronter les discours politiques ou de communication avec des discours plus intimes en passant de l'un à l'autre et en se rendant compte que ça ne dit pas exactement la même chose.
Thank you. wishful of thinking. I so want to
que la prise de vue est un ensemble, c'est rassembler un ensemble de circonstances qui permettent d'être témoin, le plus possible témoin. Un petit peu à la façon de quelqu'un qui prend des notes, d'ailleurs. Mais ensuite, il y a l'editing, qui est en fait, et surtout avec un médium qui est extrêmement ambigu et manipulable, dans un deuxième temps, et en fonction bien entendu de la destination de l'image, mais ici on parle de journalisme et on parle des pages d'un quotidien, en l'occurrence Le Monde, je consulte ces notes d'une certaine manière pour faire des phrases ou pour expliquer quelque chose. C'est vraiment en fonction de ce qu'on comprend de ce qui se passe, et à mon avis c'est la part du travail la plus importante si on parle de photojournalisme. C'est la compréhension de ce qu'on voit qui entraîne le choix de l'image, parce qu'on va en fait se servir de cette image pour accompagner un texte et pour l'appuyer. Elle n'aura jamais la capacité de détailler, d'expliquer tout ce que les mots peuvent expliquer. Je pense que le rôle de la photographie dans l'information est petit. On ne peut pas expliquer la complexité d'une situation avec une photographie. Les situations ne sont jamais les mêmes et on ne dira jamais assez comment c'est important de les différencier, de faire des assimilations. La photographie fait beaucoup d'assimilations, c'est terrible, c'est ce qu'il y a de pire. Et surtout pour les gens qui la vivent, la situation est difficile. Je pense que l'image, dans la presse, elle va susciter un intérêt, elle va susciter la volonté de s'informer. Et ça, c'est tant mieux, c'est formidable. Expliquer une situation, certainement jamais.
Susciter le désir de s'informer, mais expliquer jamais, c'est la voix de Laurent van der Stocht, qui était venu exactement quasiment au même moment l'année dernière pour parler de son travail présenté lui aussi à Visa pour l'image, édition 2017. Il avait d'ailleurs eu le Visa d'or. Samuel Bollendorf, je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit d'expliquer jamais. Donner le désir de s'informer, pourquoi pas? Quand on pense à votre série de photographies Contamination, est-ce que vous seriez sur la même ligne que lui?
Évidemment, l'idée c'est d'essayer de raconter une histoire. Donc on peut pas être exhaustif, on peut pas donner toutes les clés. Par contre, encore une fois, moi mon but majeur, c'est d'essayer de réaffecter. Donc c'est peut-être cette façon de...
De reconcerner.
Oui, c'est ça, oui. C'est ce que Laurent peut-être appelle l'envie de... donner envie de s'informer. C'est ne plus être insensible à un sujet, en fait. Et c'est, je pense qu'il y a quelque chose là de ce moteur d'injustice, peut-être, hein, où je me dis, mais c'est pas possible d'être insensible à ce sujet-là. Et donc, j'essaye de travailler sur le fait qu'on ait envie de ne plus, ou qu'on ne puisse plus, y être insensible.
Et ça, de la même façon, pour cette série Contamination qui s'attache à des catastrophes de contamination industrielle irréversible, ou du projet Le Grand Incendie dont on parlait tout à l'heure, qui s'attache à rendre visible ou à travailler la mémoire de ces personnes qui s'immolaient par le feu. J'essayais de faire le lien entre ces deux projets-là. C'est aussi des projets que vous rapprochez, Samuel Bollendorf?
Absolument. En fait, c'est des projets qui s'inscrivent dans la continuité aussi de La Nuit tombe sur l'Europe, qui est le projet sur les réfugiés, et d'un quatrième volet que j'ai réalisé qui s'appelle Les morts de la rue, qui est donc un travail sur ces lieux, ces bouts de trottoirs parisiens, ces bancs de squares, ces bouts de parking dans lesquels on retrouve un sans-abri mort. Et je me suis toujours dit depuis des années, mais c'est pas possible de travailler sur les SDF, parce que on se fabrique des œillères pour supporter. C'est pas possible de vivre dans une ville dans laquelle il y a des gens qui crèvent en bas de chez nous. Et pour supporter ça, on fabrique forcément des défenses. Et ces défenses, elles passent même parfois essayer de ne pas croiser un regard, parce que on a la tête ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est un mauvais jour, parce qu'on a déjà donné une pièce, parce que je sais pas quoi. Ça fait pas de nous des salauds, mais il n'empêche que on fabrique un réflexe de protection qui fait qu'on ne veut plus voir. Et donc, je me suis toujours dit, photographier des SDF, ça sert à rien. Puisque c'est juste essayer de renvoyer une image qu'on veut pas voir. Et en ayant fait le travail sur le grand incendie, je me suis ensuite mis à travailler sur les réfugiés, et la violence qui leur a été faite tout au long de leur arrivée en Europe. Et après, je me suis dit, mais en fait, peut-être que cette forme photographique, ces lieux vides, photographiés de façon très frontale, accompagnés des récits, ça peut être une façon d'aller travailler sur les sans-abri à Paris. Et donc, j'ai travaillé avec le collectif Les Morts de la Rue, qui récolte trois informations, rien de quoi juste aller prononcer un mot sur la tombe au moment où les gens sont enterrés, peut-être parfois de faire en sorte qu'on ait leur nom pour pas qu'ils soient enterrés de façon anonyme. Et donc j'ai réalisé également cette série. Et en fait, l'ensemble de ce travail, pour moi, il dresse un portrait terrible, hein, mais de notre humanité en ce début de 21e siècle. C'est-à-dire que, encore une fois, on a commencé comme ça, où que je regarde, que ce soit sous ma fenêtre, avec des gens qu'on laisse crever, que ce soit dans la sphère du travail, avec des gens qui sont acculés, poussés jusqu'à l'immolation devant leur lieu de travail, tellement ils ont été humiliés, non soutenus, que ce soit dans le projet d'idéal de démocratie et d'humanisme qui est censé représenter l'Europe, qui laisse des cadavres à ses portes, ou que ce soit à l'échelle planétaire, avec ces lieux immenses, laissés impropres au développement de la vie pour des siècles. C'est voilà l'état de notre humanité en ce début de 21e siècle. Et tout ça est cohérent, et ce ne sont que des lieux vides, que des lieux qui parfois sont très beaux même.
Justement, c'est exactement la question que j'avais au bout des lèvres, Samuel Bollendorf, au milieu de tout cela, hein, qui est quand même pas une photographie mentale très agréable à se figurer. Comment parvenez-vous à vous dire « Ok, c'est une belle image, c'est une bonne image ».
C'est vrai, c'est parfois compliqué. Je pense que c'est une image brute, mais pas au sens brutal, au sens de c'est une image sans effet. C'est une image ordinaire.
Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de recherche, on le voit bien
absolument
quand on voit votre travail.
Non, non, parfois je fais des milliers d'images pour réussir à faire une image ordinaire. Non pas que les autres soient exceptionnels, hein, mais pour réussir à faire une bonne image ordinaire, c'est très difficile. C'est très difficile de ne rien photographier.
Ou familière, j'utiliserais presque ce mot-là.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'imaginais dans cet ordinaire, c'est-à-dire quelque chose que nous puissions partager ou que nous puissions nous approprier, reconnaître. C'est une image qu'on peut reconnaître, c'est la nôtre. C'est un lieu dans lequel on peut tout à fait se rendre. Ça pourrait être notre endroit. Et du coup, on peut commencer à élaborer, encore une fois, un imaginaire à cet endroit-là, parce qu'il ne nous est pas étranger.
En fait, que plus rien ne soit trop loin, ou définitivement inatteignable d'une certaine manière, les êtres ou les paysages.
Mais il y a tellement de distance. Enfin, on va pas parler du mort au kilomètre, mais c'est tellement facile de mettre à distance toutes ces horreurs, d'autant qu'on y est confronté en permanence. Je sais pas combien d'images effroyables on voit chaque jour quand on s'intéresse un tout petit peu au monde. Il faut mettre à distance, même il faut s'en protéger, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de penser. Et donc c'est pour ça que il faut trouver d'autres moyens de refaire exister la parole aussi. C'est ça qui est fondamental, c'est d'entendre ces voix, parce que on peut trouver ça insupportable, cette horreur et cette misère du monde. Et n'empêche que de l'autre côté de ces images effroyables, c'est des gens qui crient. Et que du coup, on n'entend pas en se protégeant. Donc il faut réussir à baisser la garde. Et pour ça, c'est pas forcément en montrant des images effroyables. Ça peut être justement en essayant de poser quelque chose d'assez simple dans lequel on va être en confiance pour pouvoir à nouveau écouter et du coup faire exister cette parole.
Merci beaucoup Samuel Bollendorff. Alors on peut voir vos photographies du 1er au 16 septembre à Perpignan dans le cadre du festival Visa pour l'image. Et puis on a la chance que votre site internet soit vraiment bien fourni. Donc on peut aller aussi voir des images sur écran. C'est pas la même chose, mais chacune des séries qu'on a évoquées et d'autres. Et puis aussi se promener dans les web documentaires et les différents films et puis les différentes prises de son. Enfin, il y a de quoi passer des jours entiers. Et on peut aussi se procurer l'ouvrage Le Grand Incendie, où les textes et les photographies qu'on a évoquées sont regroupés. C'est publié aux éditions Textuelles. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ce soir au son, c'était Pierre Monteil à la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve demain soir à 21h et quand vous voulez sur franceculture.fr en réécoute ou en podcast auquel vous pouvez vous abonner. Je remercie Jeanne Aléos, Marianne Chassor, Laure Chastan qui pensent et préparent cette émission avec moi et je vous souhaite une très belle soirée.